Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes contents d'être avec mon épouse parmi vous ce matin, enfin pour cette journée, après-midi aussi bien sûr. Ce n'est pas la première fois que nous venons, ça fait déjà quelques fois, mais nous sommes heureux d'être là, de voir que l'Église avance, bien sûr. Et ça, c'est la destinée de l'Église, il faut qu'elle avance. De voir donc des visages que nous connaissons, que nous reconnaissons, puis de découvrir aussi d'autres visages que nous ne connaissons pas encore, que nous n'avons pas encore connus. Mais en tout cas, une chose est sûre, chacun d'entre nous ici, c'est la démonstration, si je puis dire, de la grâce de Dieu et de l'amour de Dieu qui se manifeste encore aujourd'hui sur notre terre, et heureusement. Sinon, où serions-nous sans cela? Ce matin, si vous voulez bien, je parlerai de Jésus. Je pense que ça vous convient. Mais sous un aspect auquel peut-être on ne pense pas toujours, c'est le fait que Jésus, qui est dans le ciel de gloire, évidemment, assis à la droite du Père, est avec son corps. Et ce matin, le message que nous allons voir, peut-être nous fera porter un regard non pas nouveau, puisque tout ce qui est dans l'Écriture y est pour depuis toujours, mais peut-être un regard avec, pour nous, un aspect différent sur la sanctification. Vous savez que Jésus, la Bible dit, c'est notre exemple, c'est notre modèle. Il a donné un exemple afin que nous suivions ses traces, dit l'Écriture. Et c'est une bonne chose de comprendre vraiment, bon, je sais que je ne vous apprends rien ici, d'une part, ce qu'est la sanctification, mais ce que implique le fait de se sanctifier. Car la Bible dit que Jésus s'est sanctifié lui-même, n'est-ce pas ? Et en même temps aussi, j'allais dire, booster un petit peu ou donner à notre adoration également une portée peut-être plus profonde encore et plus réelle. Voir tout ce que, jusqu'où, je voudrais dire, jusqu'où Jésus est allé, à cause de son amour pour nous. Alors, on fera plusieurs lectures ce matin, mais déjà, nous allons en faire deux, si vous voulez bien. Une première dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 17. Nous lirons à partir du verset 15. Pour bien faire, il aurait fallu lire tout le chapitre 17. Mais bon, je n'ai pas voulu alourdir les lectures. Mais on va déjà commencer au verset 15, où Jésus prie, vous savez, c'est le moment où Jésus est avec les disciples dans la chambre haute, cet endroit qu'il avait réservé pour se retrouver avec eux, afin de prendre ce qu'allait être pour lui le dernier repas de Pâques sur cette terre, et en quelque sorte pour transcender cette fête de Pâques. Au-delà de la tradition, au-delà simplement de ce que Dieu avait demandé, mais qui allait faire maintenant partie de l'ancienne alliance, vers cette nouvelle alliance comme nous l'avons célébrée nous-mêmes ce matin, celle de l'alliance, n'est-ce pas, autour du corps et autour du sang de Jésus-Christ. Il a là donné quelques informations, quelques enseignements encore à ses disciples, mais surtout il a prié. Cette longue prière, dont le chapitre 17 fait partie, c'est la conclusion, c'est la fin de ce temps-là, où Jésus s'adresse au Père en tant que sacrificateur. C'est pour cela que souvent, quand on parle du chapitre 17 de l'Évangile selon Jean, le sous-titre, peut-être vous l'avez dans votre Bible, « La prière sacerdotale ». Ça sert à quoi, disaient certains? Mais non, la prière sacerdotale, c'est la prière du sacrificateur, celle que le sacrificateur offre à Dieu, en l'occurrence Jésus, qui offre cette prière, en quelque sorte, qui fait monter cette prière vers son Père. Il dit donc au verset 15, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Amen. Je retiens ce verset 19. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Vous avez remarqué que Jésus ne dit pas « je me suis sanctifié moi-même pour eux », mais il dit « je me sanctifie moi-même pour eux » juste quelques heures avant sa mort sur la croix. Puis nous lirons dans l'Épître aux Hébreux, si vous voulez bien également, au chapitre 10, nous lirons les versets 5 à 10. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi, il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Amen. Vous avez remarqué peut-être que dans ce passage que nous venons de lire, il est question à deux reprises du corps de Jésus. Il est dit que, reprenant bien sûr un texte de l'Ancien Testament, un psaume, il est dit « tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. » Et puis à la fin, au verset 10, il est dit « c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ. » Je voudrais parler d'abord de ce qu'on appelle la préexistence de Jésus. Car vous n'êtes certainement pas sans ignorer que Jésus-Christ, Jésus-Christ, a été l'incarnation, n'est-ce pas, de Christ ou du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, Dieu le Fils, a toujours existé, existera toujours, il est éternel. Et Jésus, l'homme, a été l'incarnation du Fils. Mais le Fils de Dieu, ou Dieu le Fils, n'est pas venu à l'existence, à la naissance de Jésus. Vous rappelez, nous avons lu là, dans ce texte d'Hébreux 5, où il est question de Christ entrant dans le monde. Christ entrant dans le monde dit, tu m'as formé un corps. Tu m'as formé un corps. Toute la Bible rappelle l'éternité de Christ, sa divinité, sa gloire, sa puissance, sa toute-puissance. Car étant Dieu, il a évidemment toutes les caractéristiques, tous les attributs de Dieu, tous les attributs majestueux de Dieu, sa toute-puissance, sa toute-connaissance, son omniscience, enfin, etc. Mais, à un moment donné, eh bien, comme dira Paul, lorsque les temps ont été accomplis, Christ s'est incarné. Le Fils de Dieu s'est incarné. On voit cela dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1, Philippiens, chapitre 2, sont les textes majeurs, mais évidemment, il y en a quantité d'autres. Jean nous dira que au commencement était la parole, mais au commencement, c'est vrai que nous, les Occidentaux, on a du mal un petit peu avec certaines expressions de la Bible parce qu'on n'est pas dans le même, j'allais dire, le même contexte culturel. Et au commencement, on peut supposer que, eh bien, il y a eu un point peu importe, où les choses ont commencé, évidemment, à la création. Mais quand on parle de Jésus, ou quand on parle de la parole, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, la parole s'est mise à exister, ou le Fils de Dieu s'est mis à exister. Ça veut dire au fin fond, si j'ose dire, au fin fond de l'éternité. Était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et à partir de ce préambule, bien Jean va faire tout un développement pour, donc, d'une part, nous présenter cette éternité qui était celle de Dieu, le Fils, mais en même temps pour nous dire que ce Dieu, ce Fils, il est venu habiter parmi nous. Elle a habité parmi nous. Mais le mot « habiter », en fait, c'est le mot « tabernacle ». Le mot « tente », la racine, c'est ça, c'est le tabernacle, c'est la tente. Il a tabernaclé, littéralement. Certaines versions traduisent comme cela. C'est vrai que ce n'est pas très élégant sur le plan du langage, hein, mais c'est plus juste. Il a tabernaclé, comme Dieu tabernaclé, si j'ose dire, dans l'ancienne alliance, dans le désert, au milieu de son peuple. C'est évident que le tabernacle ou la tente, je dirais même aussi le corps physique de Jésus, ne pouvait pas contenir toute la plénitude de la divinité. Mais Dieu lui-même le dira, n'est-ce pas ? Il habitait au milieu de son peuple. Il manifestait sa présence par une nuée de feu la nuit ou une nuée, n'est-ce pas, dans la journée, mais il manifestait sa présence. Salomon le dira bien lorsqu'il a construit le temple, disant, mais est-ce que tu pourrais venir habiter dans ce temple, toi qui remplis tout l'univers? Évidemment, bien sûr, nous le comprenons, non, mais dans sa grâce, Dieu est capable de venir là, et en la personne de Jésus, dans sa grâce, il s'est limité. Il s'est revêtu littéralement d'une tente. Et cette tente dont il est question, ce tabernacle, c'était son corps. Paul lui-même, hein, dans un texte bien connu de ses épîtres, dira nous habitons dans la tente dans laquelle nous habitons se détruit. Donc Jésus s'est limité en quelque sorte. Il est venu s'abîmer, dira l'épître aux Philippiens, au chapitre 2, hein, lorsqu'il s'est revêtu d'un corps humain. Et en effet, il s'est limité. Car quand on lit, n'est-ce pas, les évangiles, nous voyons tout à fait cette humanité de Jésus. Pas simplement dans ses sentiments de compassion ou autre, parce que Dieu les a aussi, mais dans ses limitations humaines. Nous le voyons fatigué, s'arrêter au bord du puits de Sichar. Nous le voyons avoir soif. Nous le voyons pleurer devant le tombeau de Lazare. Nous le voyons, n'est-ce pas, eh bien, attristé par le comportement des uns et des autres. Et nous pourrions ainsi, évidemment, multiplier les exemples. Il dira lui-même, « Mon âme est triste à la mort ». Il nous est dit qu'à Gethsémané, eh bien, il était dans l'angoisse, enfin, etc. Donc, dans l'agonie. Et nous nous rendons compte que Jésus était vraiment limité dans ce corps. Mais ça ne l'empêchait pas, bien sûr, de rester et d'être toujours Dieu. Et il y a un passage extraordinaire que j'aime beaucoup. C'est ce fameux passage de la transfiguration de Jésus. Cette transfiguration où Pierre, Jacques et Jean sont témoins d'un événement extraordinaire. Alors que Jésus est là, sur cette montagne, avec eux, tout d'un coup, il est dit qu'il s'est mis à resplendir, ses vêtements resplendissaient d'une blancheur extraordinaire, son visage s'est mis à resplendir, etc. Et en réalité, dans le texte original, il y a des nuances qui sont extraordinaires, qui en fait disent, bon, le mot en français, c'est transfiguré, mais qui veut dire qu'il y a eu comme j'allais dire une modification, non pas, mais comme quelque chose qui tout d'un coup transparaissait au travers de l'enveloppe humaine de Jésus, c'était sa divinité. comme si, hein, quand on a un abat-jour, par exemple, et qu'on allume la lumière, hein, y a cette clarté qui se fait. Et sur cette montagne-là, il y a eu cela. Au point que, rappelez-vous, hein, Pierre, notamment, dira au Seigneur, il est bon que nous soyons ici et on va dresser quoi ? Justement, trois tentes, trois tabernacles, littéralement. Pour toi, pour Moïse, pour Élie, etc. Mais il nous est dit qu'il disait cela, il ne savait pas ce qu'il disait parce qu'il était dans la peur. Lui et les autres étaient dans la crainte parce que tout d'un coup, il y a cette gloire de Dieu, la gloire de Dieu qui descend, mais en même temps, la gloire de Dieu qui transparaît au travers, n'est-ce pas, du corps de Jésus. Si je dis cela, frères et sœurs, et je ne vous apprends rien, je le sais bien, c'est pour que nous nous rappelions cela. Le Dieu, Fils de Dieu, s'est incarné. Il s'est revêtu d'une enveloppe humaine. Et Paul dira même, n'est-ce pas, un corps semblable à celui du péché. Vous imaginez ? Il est venu, il s'est abîmé lui-même, il s'est humilié lui-même, dit Paul, et il est venu vivre comme un simple homme au milieu des hommes. Il s'est sanctifié. Il s'est sanctifié. Et j'aimerais que nous comprenions cela. Quand Jésus dit « Je me sanctifie moi-même pour eux », nous comprenons bien que Jésus ne dit pas ici « Je me rends saint ». Comme, bien sûr, on peut le penser quand on parle de sanctifier, de se sanctifier, d'être sanctifié. « Vous serez saint car je suis saint », par exemple, dit l'Écriture. Mais on ne peut pas dire cela de Jésus. On ne peut pas dire « Il se rend saint » parce que Jésus, lui, il n'a jamais été pécheur. Le péché n'a jamais vaincu Jésus, ni en pensée, évidemment, ni en parole, et encore moins, bien sûr, en acte. Et il n'avait donc aucun besoin de sanctification dans ce sens-là. Puisque, une fois encore, la Bible nous dit, certes, qu'il fut rendu, qu'il fut fait semblable à nous, mais sans péché. Il ressemblait en quelque sorte, hein, aux yeux des autres, il ressemblait à tout le monde. Autrement dit, il ressemblait à un pécheur, mais il n'en était pas un. On l'a accusé, on l'a calomnié, on l'a traité, comme si c'était un pécheur, un mangeur, un buveur, enfin, etc. Mais il était parfaitement saint, libre de tout péché. Et il fut le seul, et il est toujours encore le seul qui ait pu dire, hein, en parlant, n'est-ce pas, de l'adversaire, en parlant de Satan, en parlant du diable, « Il n'a rien en moi. » Que je sache, personne ne peut dire cela. Il était déjà, comme je l'ai dit, par nature, par essence, parfaitement saint, infiniment saint, parce qu'il est Dieu. Comme homme, il était saint. Et dans sa conception, puisque nous le savons, nous l'apprenons par les évangiles, que c'est par la puissance du Saint-Esprit, hein, que Marie a conçu donc l'enfant qu'elle portait et auquel elle donna le nom de Jésus, comme l'ange le lui avait dit. Certes, saint dans sa naissance, certes, il fut rempli du Saint-Esprit après son baptême, certes, mais il fut saint dans toute sa vie. Et saint aussi dans sa mort. Ce qu'il faut comprendre, bien sûr, c'est qu'il était séparé, mis à part. Mis à part pour quelque chose, bien sûr, de particulier, puisqu'il s'agit là, hein, aussi, bien sûr, de notre salut, mais aussi pour, j'allais dire, son office de médiateur. C'est vrai que c'est le Père, en quelque sorte, qui lui-même a comme envoyé, bien sûr, son Fils pour cela, qui lui a assigné cela, puisqu'il est dit dans Jean chapitre 10, verset 36, « Celui que le Père a sanctifié est envoyé dans le monde. » Mais Jésus s'est lui-même attribué cela, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, je me sanctifie moi-même pour eux. Volontairement, il s'est voué à cette tâche. Et il l'a joyeusement accepté. Je voudrais ce matin insister sur cet aspect de la sanctification. Se mettre à part, abandonnant tout, pour le but que le Seigneur nous assigne. Jésus s'est offert lui-même, en lieu et place, pour son peuple, pour chacun d'entre nous. Et déjà, nous le voyons à son baptême. Bien sûr, nous savons que Jean-Baptiste est venu prêchant le baptême de repentance, prêchant la repentance en vue du royaume de Dieu à venir. Et quand il a vu Jésus venir à lui pour être baptisé, Jean-Baptiste a eu ce mouvement de recul en disant « Comment, c'est toi qui viens vers moi, mais c'est moi qui aurais besoin d'être baptisé par toi. » Et vous vous rappelez de ce que Jésus lui dit, « Laisse, parce qu'il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Mais que veut dire cette expression dans la bouche de Jésus, « ce qui est juste » Était-il juste, entre guillemets, que Jésus prenne ce baptême de repentance? Le baptême pour la repentance? Avait-il besoin de repentance, Jésus? Avait-il besoin de se préparer pour le royaume à venir? Certes pas. En quoi donc ce baptême pouvait-il être juste? En nous rappelant ce qui, dans l'ancienne alliance, était accompli lorsque le sacrificateur, et notamment souverain sacrificateur, entrait dans ses fonctions. Il y avait deux choses principales, hors les sacrifices, etc. Il y avait, en premier lieu, le lavage de l'eau et ensuite l'onction d'huile. Il y avait ce qui préfigurait déjà le baptême. Et l'entrée en fonction du sacrificateur, eh bien, c'était d'abord et en premier cette forme, entre guillemets, ce symbole, ce type du baptême. Et lorsque Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, et cette parole, je rappelle, qui était dans sa bouche, « accomplir ce qui est juste », par ce baptême-là, déjà, Jésus, en quelque sorte, manifestait ce qu'il allait être et ce qu'il était déjà, bien sûr, ce sacrificateur qui venait pour offrir le sacrifice par excellence, le souverain sacrificateur, qui venait offrir ce sacrifice qui était celui de son corps et de sa vie. Et Jean-Baptiste savait très bien cela, averti par Dieu. Et il le dira à ses disciples, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Et voyez-vous, frères et sœurs, un aspect auquel, bien sûr, on ne pense pas toujours lorsque nous avons été baptisés ou lorsque des frères et sœurs sont baptisés, c'est d'abord cette identification, n'est-ce pas, à Christ, nous sommes d'accord. Le baptême symbolisant notre mort à Christ par l'immersion et notre résurrection en Christ par la sortie, l'immersion en quelque sorte de cette eau. Mais n'oublions pas aussi l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est en quelque part aussi, n'est-ce pas, le symbole de notre sanctification, le symbole du fait que nous nous mettons à part pour marcher avec Dieu et pour servir Dieu. C'est cela aussi, n'est-ce pas, la sanctification. C'est cela aussi. Il y avait là aussi, bien sûr, une allusion aux offrandes sous la loi, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'Épître aux Hébreux, dont le sacrifice ou les sacrifices aussi étaient qualifiés de sanctification. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, après les instructions concernant justement la Pâque, cet agneau qui allait être immolé et dont on allait ensuite badigeonner les poteaux et les linteaux des portes pour marquer le signe que ce peuple-là appartenait au Seigneur. Il est dit dans le livre de l'Exode au chapitre 2, oh pardon, au chapitre 13, au verset 2, au verset 14 et même au verset 15, il est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, verset 2, « Consacre-moi tout premier-né parmi les enfants d'Israël, tant des hommes que des animaux, il m'appartient. Consacre-moi. » Mais les versions les plus anciennes, peut-être plus proches du texte hébreu, disent « Sanctifie-moi. Sanctifie-moi tout premier-né, que ce soit des enfants ou des animaux, parce qu'il m'appartient. Mais à part, consacre-moi. » Et bien sûr, derrière cela, il y a la pensée de ce sacrifice, de tout perdre, de s'abandonner. Et au verset 14 de ce même chapitre 13, donc, il est dit, « Et lorsque ton fils te demandera un jour que signifie cela, tu lui répondras, « Par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles et je rachète tout premier-né de mes fils. » On trouve le mot consacré et le mot sacrifice. Et ce que l'on consacrait, en fait, eh bien, était un sacrifice que l'on offrait à Dieu. Dans la sanctification, excusez-moi, frères et sœurs, d'employer ce vocabulaire-là, mais dans notre sanctification, nous nous sacrifions. Et nous nous consacrons à Dieu. Et vous vous rappelez combien de fois, dans la parole de Dieu, il est dit, eh bien, par exemple, de mettre à mort le vieil homme, de crucifier le vieil homme, la chair, etc. Il y a là, bien sûr, aussi la pensée, n'est-ce pas, d'un sacrifice. Alors, il ne s'agit pas d'aller se couper le cou. Ce n'est pas physiquement, bien sûr. Mais je ne vous l'apprends pas, ça, j'espère. Hein. Ce n'est pas physiquement, mais spirituellement. Se sanctifier, c'est se sacrifier. Se consacrer tout entier à Dieu. Tout entier au Seigneur. Jésus a dit, je me sanctifie moi-même pour eux. Et ce qu'il sanctifiait, ce qu'il consacrait, ce qu'il a offert, c'est sa propre personne. Bien sûr, j'allais dire sa personne humaine, son corps, son âme, son esprit, certes, mais également, si je puis dire, tout ce que comportait jusque-là cette divinité, car, nous le verrons tout à l'heure, avec la venue de Jésus sur la terre, sa mort, sa résurrection, et ensuite son ascension, les choses ont eu une tournure. J'oserais dire qu'elles n'avaient pas auparavant. J'y viendrai dans un instant. C'est là, n'est-ce pas, l'expression de son amour. Je voudrais parler de Jésus, notre grand souverain sacrificateur. Dans l'Épître aux Hébreux, je citerai plusieurs passages. L'auteur de cet épître dira au chapitre 8, verset 1, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux comme ministre du sanctuaire, du véritable tabernacle qui a été dressé pour le Seigneur et pour les hommes. Assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. C'est la seule fois où nous disons-nous, ce sera là le départ, où nous voyons le sacrificateur assis. Car dans l'ancienne alliance, frères et sœurs, le sacrificateur, dans son service, si je puis dire, n'était jamais assis. S'il y ait un élément du mobilier qui n'était pas dans le tabernacle ou dans le temple, c'est le siège. Relisez bien, vous ne verrez nulle part un siège. Et quand il nous est parlé de sacrificateur assis, malheureusement, c'est toujours catastrophique. Tant avec Élie, comme avec aussi du temps de Samuel. On ne s'asseyait pas, le sacrificateur ne s'asseyait pas, parce qu'il y avait un perpétuel, un renouvellement sans cesse des sacrifices. Mais Jésus, lui, s'est offert, dit la Bible, une fois pour toutes. Le sacrifice de Jésus, n'est-ce pas, est parfait. Et quand Jésus est entré dans le lieu très saint, le Saint des Saints, le sanctuaire céleste, eh bien, il s'est assis. Parce que rappelez-vous cette parole de Jésus, tout est accompli. Tout est accompli. Les sacrifices de l'ancienne alliance, frères et sœurs, ne pouvaient pas, dira l'Épître aux Hébreux, je ne peux pas lire tous ces textes, bien sûr, mais ne pouvaient pas rendre parfait ceux qui les offraient. Et il y a une expression que l'on retrouve chaque fois qu'il est question des sacrifices de l'ancienne alliance, c'est le mot « couvrir ». Le sang des taureaux, des boucs, couvrait le péché. Mais couvrir, ce n'est pas ôter. Or, l'agneau de Dieu, Jésus, ôte le péché du monde. Le sacrifice de Christ, le sang de Jésus, ôte les péchés. Et nous purifie ainsi de tout péché, de toutes nos iniquités. Il nous lave. Jésus s'est mis à part pour cela. Car évidemment, il savait très bien que tout ce qui jusque-là avait été fait n'était pas suffisant. Il fallait un sacrifice plus excellent que celui-là. Et il s'est donc fait sacrificateur pour offrir ce sacrifice que personne d'autre ne pouvait offrir. Car vous le savez aussi bien que moi, bien sûr, personne n'a ôté la vie à Jésus. Il l'a donnée de lui-même. Il le dira, n'est-ce pas ? Personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. Je suis le sacrificateur qui sacrifie sa vie, qui offre sa vie pour chacun de nous. Au chapitre 9, versets 11 et 12, je vous rassure, je ne vais pas vous faire jeûner à midi, mais je vais aller un petit peu plus vite peut-être, mais... Chapitre 9, verset 11, il est dit « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand, plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et de veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Éternelle. C'est pour ça qu'il est dit au chapitre 7, verset 25, toujours de l'Épître aux Hébreux, c'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, et plus élevé que les cieux. Alléluia. Tout est accompli. En Christ, nous avons un salut parfait. Et la Bible dit qu'il n'y a pas besoin de renouveler les sacrifices. Ça a été fait une fois pour toutes. Et le sacrifice de Jésus est pleinement suffisant. Pleinement suffisant. Il n'y a rien à ajouter. Et pourtant, la Bible dit qu'il est notre souverain sacrificateur et qu'il intercède pour nous. On a donc besoin... que Christ intercède pour nous. On a encore besoin du soutien de Christ. Non pas pour être sauvé, puisque ça, il l'a fait à la croix, une fois pour toutes. J'allais dire, mais pour que nous continuions à être sauvés. Pour pour que nous puissions être secourus, encore une fois, dira l'Épître aux Hébreux, dans tous nos besoins, ce matin, ça a été lu aussi, en nous approchant du trône de la grâce, n'est-ce pas, dans la foi. Et c'est justement ce terme, cette expression d'intercesseur. Il intercède. C'est pour eux que je prie, on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce que le moment où il allait être offert était proche. Tous les péchés sont expiés. Nous sommes tous purifiés en Jésus-Christ, bien sûr, hein, de toute souillure, de toute culpabilité par Christ et son sacrifice, comme nous venons de le voir. Mais Jésus s'est mis à part pour cela. Et j'oserais dire, n'est-ce pas, qu'il s'est mis à part comme un homme céleste. Un homme dans la gloire. À une époque, on chantait ce petit chœur. Il est un homme dans la gloire, c'est Jésus de Nazareth. Bon, il y a longtemps qu'on ne le chante plus, mais on chantait. Je ne sais pas si vous aviez réalisé cela. Moi, j'avoue que je l'ai chanté pendant des années. Bon, maintenant, on ne le chante plus. Mais c'est maintenant, tout d'un coup, que je réalise que c'est une vérité. Il est un homme dans la gloire. Parce que peut-être on pourrait supposer quelque part que quand Christ est mort, quelque part il a laissé, je ne sais pas où, son enveloppe humaine en quittant ce monde. De manière en quelque sorte à entrer simplement de nouveau dans sa position divine. Mais non. Non, parce qu'il nous a dit, il a gardé bien sûr dans la gloire son enveloppe, si je puis dire, mais dans la gloire qu'il avait avec le Père avant que le monde fût. Alors entendons-nous bien, ne me faites pas dire ce que j'ai dit, je peux avoir des soucis avec Joël après. Je ne suis pas en train de dire que Jésus, c'est un petit Dieu. On n'est pas de cela. Certains le disent, mais on n'est pas de cela. Je ne suis pas en train de dire que Jésus est moins que Dieu, un sous-Dieu ou que sais-je encore. Je répète ce que je disais tout à l'heure, il est Dieu. Il est Dieu le Fils. Sauf que, c'est pour ça que je le disais, sauf qu'il y a eu un changement. Parce qu'avant son incarnation, Dieu le Fils, qui était dans la gloire céleste, qui était servi par les anges, n'avait pas de corps. Mais maintenant, après son incarnation, après sa mort, sa résurrection, et ensuite son élévation dans la gloire où il est monté, eh bien, il est dans un corps. Glorifié, bien sûr. Quand Marie a voulu le toucher, elle dit non, ne me touche pas parce que je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais maintenant, un corps glorifié. Mais un corps, chers amis. Un corps. Jésus n'a pas renoncé à ce corps. Et quand on le voit, et on n'aura pas le temps de le regarder, évidemment, hein, mais après sa résurrection, il est apparu, et Paul le dira, il est apparu pendant 40 jours, à plusieurs reprises, de plusieurs manières. On le verra lorsque les apôtres sont cachés dans cette chambre haute, justement, Jésus venant au milieu d'eux. On l'entend quand il dit à Thomas, viens, mets tes doigts. Viens mettre ton doigt là. Et viens mettre ta main là. Il avait bien un corps. Jésus d'ailleurs dira, un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'ai. Alors bien sûr que ça dépasse mon entendement, je ne sais pas pour vous, mais moi ça dépasse mon entendement, j'y perds un peu mon latin dans tout ça, mais c'est écrit, je ne peux pas quand même enlever ce qui est écrit. Et c'est clair. Il va marcher pendant, je ne sais, quelques heures, hein, aux côtés des deux disciples, dont un s'appelle Cléopas. Vous connaissez ce texte de Luc 24. Il parle avec eux, etc. Il s'entretient. Bon, il parle avec quelqu'un. Il n'est pas dit c'était un esprit qui est venu. Non, Jésus, c'est le texte le dit, hein, Jésus eh bien, vient et leur parle. Et ensuite, ils vont le reconnaître. Parce qu'au moment où ils rendent le pain, alors est-ce à cause des marques, peu importe, mais au moment où ils rendent le pain, là, ils le reconnaissent et puis ils vont annoncer aux autres qu'il est vivant parce qu'ils l'ont vu. Ils l'ont vu. Ensuite, Étienne dira qu'il a vu, il voit. Je vois le Fils de l'homme, je le vois. Il le reconnaît, il le connaît, il sait qui c'est. Je vois le Fils de l'homme. Il ne dit pas quelqu'un qui ressemble à, comme on pouvait le dire hein, les prophètes autrefois. Mais le Fils de, je le vois, il le connaît. Et puis, il y a Saul. Saul de Tarse, quand il verra pour la première fois Jésus. Il a une apparition, bien sûr, de Jésus. Et puis, Paul dira, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Alors, on ne peut pas dire qu'ils étaient tous illuminés, quand même. Non. Jésus a dit qu'il allait même boire du vin, nouveau, avec ses disciples, dans le royaume de son Père. Nous sommes invités à un grand festin de noces dans les cieux, etc. Et tout au long de l'Épître aux Hébreux, comme dans Pierre ou autre, on voit Jésus qui continue éternellement à remplir ses offices de prophète, de sacrificateur, de roi, etc., qu'il exerce de fait dans la présence même de Dieu, assis à la droite de la majesté divine, mais en tant que homme éternel. Ce qui veut dire que Jésus n'est pas devenu homme temporairement pour un moment, pour un besoin donné, mais il est, cette nature divine dont je parlais tout à l'heure a été unie de manière permanente à sa nature. Alors, j'ose pas dire humaine, parce qu'elle n'est pas humaine comme on peut le voir les uns les autres, mais humaine quand même, parce que c'est un corps. Et un corps glorieux, un corps de gloire, mais un corps tourné comme vous voulez. Et il vit à jamais comme le Fils éternel de Dieu. Et comme Jésus. Dans le livre de l'Apocalypse, rappelez-vous, révélation de Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas les révélations des événements qui vont venir que Jésus raconte, c'est d'abord la révélation de Jésus-Christ que Dieu a donnée. Vous voyez ? Et la première chose qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, c'est Jésus, comme il est maintenant. Alors évidemment, Jean a un peu de mal à le dépeindre, hein. c'est comme, parce que les mots de la terre pour décrire les choses des cieux, c'est un peu difficile. Ce matin, j'ai un peu de mal. Oui, mais il l'a vu. Là, au milieu des chandeliers, au milieu des églises, il l'a vu. Il l'a reconnu. C'était, alors, dans l'Apocalypse, il ressemblait au Fils de l'homme. Non, c'est, il ressemblait au Fils de l'homme. C'était le Fils de l'homme. Jésus restera pleinement Dieu, pleinement homme pour l'éternité. Et voyez-vous, c'est quand même extraordinaire de réaliser à quel point Dieu nous a aimés, mais à quel point Jésus nous a aimés. Pour lui, excusez-moi de dire ça comme ça, j'essaie de faire comprendre alors ma pensée, peut-être mal exprimée, mais pour lui, les choses n'étaient plus, n'ont plus jamais été les mêmes. Toujours Dieu, évidemment, toujours plein de gloire, toujours dans sa majesté, etc., mais avec un corps. Ce qui n'était pas avant. Jamais, jamais, dans l'Ancien Testament, il ne nous est dit que Dieu le Fils avait un corps. Il apparaissait sous forme humaine, l'ange de l'Éternel, comme on peut le voir à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelait une christophanie, une apparition sous forme de Dieu. Mais Dieu aussi le faisait, avec Abraham et d'autres. Dieu aussi l'a fait. Ça ne veut pas dire que Dieu a un corps. Et dans l'Ancienne Alliance, eh bien, le Fils de Dieu n'avait pas de corps. Mais maintenant, il a un corps. Chaque fois que je relis des textes comme ceux que j'ai, puis d'autres, bien sûr, que nous avons partagés ce matin, frères et sœurs, je suis ému au plus profond de moi, reconnaissant à jamais, à Jésus pour son sacrifice, qui n'est pas simplement celui de la croix, mais qui est celui bien d'avoir pris un corps. Tu m'as formé un corps. Et c'est par l'offrande de ce corps que nous avons été sauvés, frères et sœurs. Voyez la sanctification ? Ça va loin. Ça va, je ne vais pas vous faire peur. Hein. Ça va loin. Je me sanctifie moi-même pour eux. Ça veut dire, maintenant, je sacrifie tout. Et nous sommes appelés à nous sanctifier. Dieu nous a sanctifiés en Jésus-Christ. C'est notre position, en quelque sorte. Mais la Bible nous dit que nous sommes appelés à nous sanctifier. Nous sanctifier. Et sans la sanctification, dira même Paul, bien personne ne verra le Seigneur. Et c'est sûr que si nous voulons nous sanctifier, bien, il y a des choses qu'il va falloir, qu'il faut. Mais ne regardons pas cela, j'allais dire, comme une mortification. Il y en a qui confondent tout. Se sanctifier, ce n'est pas se mortifier. Jésus ne vivait pas la mortification dans l'âme. Il a dit, c'est vrai, mon âme est triste à la mort, mais ça ne veut pas dire qu'il vivait dans une mortification continuelle, comme une espèce, n'est-ce pas, d'homme courbé comme cela, sous le poids de je ne sais quel péché, ou plutôt quelle souffrance, excusez-moi. Non. Il ne s'agit pas de se mortifier. Il s'agit de se mettre à part. Et je conclue là. Je me souviens, je ne sais pas si ça existe toujours, je crois que c'est le frère Aimé Cizeron qui nous avait transmis ça, je ne sais pas d'où il le tenait. C'était un poème qui disait « Mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. » Si certains ont lu ça, alors bon, je ne l'ai pas en tête parce qu'il y avait pas mal de choses. Mais bien, on peut faire ceci, on vit comme ça, etc. Mais à toi, ton Dieu ne le permet pas. On peut faire ceci, on peut faire cela. Et bien, à toi, ton Dieu ne le permet pas. Alors, c'est vrai que dit comme ça, on a l'impression que c'est un carcan. Mais au travers de cela, justement, ce que, en tout cas, c'est comme cela que je l'avais compris. Ce que disait ce pamphlet, ce poème, ça en était un. C'est que quand on est à part pour Dieu, il y a des choses qui ne sont plus possibles. Il y a des manières de vivre, des manières de penser, des manières de parler, des manières d'être qui sont plus possibles. La sanctification, c'est ça aussi. Et certes, il y a des choses qui vont changer. Il va y avoir des changements. Il doit y avoir des changements. Et puis un jour, eh bien, nous aussi, frères et sœurs, nous serons comme Jésus. Nous le verrons, dit la Bible, parce que eh bien, hein, nous le verrons tel qu'il est, parce que nous serons comme il est. Et nous aussi, on aura un corps. Hein, des fois, on me dit, est-ce qu'on aura un corps ? Oui, comment il va être ? Je ne sais pas, je ne sais pas. On aura un corps, on se reconnaîtra, on se reconnaîtra. Vous savez, moi, dans le ciel, je ne suis pas allé. Moi. Paul, peut-être, vous aurez répondu. Mais il a dit qu'il y avait des choses qu'il ne pouvait pas dire. Mais moi, je ne sais pas, je ne suis pas allé dans le ciel, je ne sais pas comment ça se passe, mais je sais qu'on aura le corps. Alors, hein, c'est vrai pour nous, et ce ne serait pas vrai pour Jésus, qui s'est fait homme pour nous. Frères et sœurs, quelle grâce. Et quand je m'approche, vous voyez, du Seigneur pour l'adorer, je suis profondément ému. Le Seigneur, tu as quitté le ciel. Bon, bien sûr, maintenant tu es revenu dans la gloire, mais tu as un corps que tu n'avais pas avant. Adorons le Seigneur. Alléluia. Merci encore, Seigneur, pour ta parole. Seigneur, je te bénis. C'est vrai qu'il y aurait encore tellement de choses. Il est tellement riche, ta parole, Seigneur, de source abondante de vérité et de vie. Seigneur, nous réalisons jusqu'où va la sanctification, jusqu'où nous devrions aller, en tout cas, dans la sanctification. Mais au regard, Seigneur, de ce que toi, tu as subi, au-delà de ce que tu as accepté, Seigneur, comment pourrions-nous, Seigneur, retenir ? Seigneur, nous voulons vraiment nous mettre à part pour toi. voulons vraiment vivre pour toi, Seigneur. Et nous voulons aussi que notre corps, Seigneur, et le corps que nous formons tous ensemble, soit vraiment un corps glorieux. Déjà sur cette terre, bien sûr. Mais Seigneur, nous savons que là-haut avec toi, nous le serons en tout cas. Merci de ce que tu as vraiment tout abandonné, Seigneur. Et de ce qu'aujourd'hui, dans ta gloire, tu as ce corps. Seigneur, pour nous, c'est bien difficile à comprendre tout cela. Mais je retiens une chose, Seigneur, c'est que tu as tout abandonné. Même ça, Seigneur. Tu as tout abandonné. Pour moi, pour chacun d'entre nous, pour que nous soyons sauvés. Alors, Seigneur, je veux te bénir ce matin avec mes frères et sœurs. Te dire merci, Seigneur, pour ton grand sacrifice. Amen.